du vent dans les pages.
Pourquoi j'écris ? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça. Terrible.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain.
Un anti-parlementaire.
Voilà, un muet, c'est un anti-parlementaire.
Un muet, c'est un anti-parlementaire.
Mais un athée.
Un athée, c'est un anti-moine.
Voilà, un croyant.
Donc un croyant, c'est un antiseptique.
Voilà. Et les Arabes du Caire
sont antisémites.
Et les sémites
sont antiquaires.
Voilà.
Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même.
Lectrices et lecteurs confirmés ou en devenir, bienvenue dans le troisième rugissant du vent dans les pages, avec au programme ce mois-ci nos chroniqueurs et croqueurs de livres et d'essais Alex et Alice, des invités côté cour et côté jardin et de la poésie arménienne en fin d'émission. Alors installez-vous confortablement et sentez la caresse du vent dans les pages sur Studio Zef.
Pages volantes, aventures et mésaventures littéraires.
Par Alex Dauzier.
Alphonse Daudet et le Père Noël. Alphonse Daudet a écrit quelques contes de Noël, mais celui que je vais évoquer aujourd'hui, il ne l'a pas écrit, il l'a tout simplement vécu. Depuis son enfance et tout au long de sa vie, Alphonse Daudet eut une peur panique des chiens. Enfant, il fut placé en nourrice, la brave femme assez peu psychologue le faisait dormir dans une sorte de placard en compagnie d'un chien pouilleux qui par ses aboiements l'effrayait. Alphonse Daudet ne s'en remit jamais et conserva tout au long de sa vie ce traumatisme. Le père de Daudet, tisserand et qui possédait une petite fabrique à Nîmes, connaît la ruine alors que le petit Alphonse n'a pas 9 ans. La famille déménage à Lyon, le père cherche du travail mais n'en trouve guère, ils vivent dans un logement de misère. Pour le malheur du petit Alphonse, un vieil homme habitait la maison d'en face et possédait un gros chien noir. Alphonse n'osait jamais sortir de chez lui. La veille de Noël, ses parents l'envoyèrent quand même à la boulangerie voisine. L'enfant sortit en hâte, se rendit à la boutique, prit le pain, se dépêcha de rentrer. Malheur, le chien était assis au milieu du corridor et bouchait l'entrée. Il se cacha derrière un mur et attendit. La nuit tomba bien vite, le chien ne bougeait pas. Les habitants du quartier sortaient de chez eux pour se rendre à la messe de Noël, il n'osait bouger. Il vit même ses parents rentrer avec un agent de police. Il avait froid, il était transi, surtout il avait peur. Le chien, lui, était toujours là. Rassemblant son courage, il sortit de sa cachette et se mit à courir dans les rues. Il courut, courut, courut. Épuisé, il s'arrêta devant une église, y rentra afin de se reposer un peu. Un vieillard à la barbe blanche priait dans un coin. Le petit Alphonse s'assit près de lui. Le vieux monsieur surpris lui demanda ce qu'il faisait là. Alphonse ne répondait pas. Le vieillard le prit par la main et l'emmena chez lui en traversant longuement la ville. Ils arrivèrent dans sa maison, une simple cabane en bois, il y avait du feu. Alphonse se sentit mieux et finit par raconter son aventure au vieux monsieur. Celui-ci alla dans une autre pièce, revint avec un paquet et lui dit « Je vais te reconduire ». Daudet suivit le vieillard, ils montèrent dans un fiacre et retraversèrent la ville. Devant la porte de la maison d'Alphonse, le chien avait disparu. Alors le vieil homme lui dit « Tu donneras cela à ton père ». Alphonse prit le paquet, montra l'escalier en courant et accueilli par les cris de joie de ses parents, tendit le paquet à son père. « C'est un vieux monsieur avec une barbe blanche qui me l'a donné ». On ouvrit le paquet, il contenait une 20aine de pièces d'or. On pressa l'enfant de questions, il raconta son histoire, aussi étonnante qu'elle puisse paraître. Mais plus incroyable et plus merveilleuse encore, le lendemain, les Daudet s'aperçurent que le gros chien noir de leur voisin avait disparu. Ils apprirent dans l'après-midi qu'il avait été vendu à un vieillard qui portait une longue barbe blanche. Cette merveilleuse histoire fut certifiée authentique par Frédéric Mistral et Paul Arène, compagnons d'enfance d'Alphonse Daudet. Bien évidemment, personne ne sut jamais le nom de ce mystérieux vieillard, mais nous, nous savons bien qu'il s'agissait du Père Noël.
You say I wanna be devoted,
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans l'émission « Du vent dans les pages » sur Studio Zef. Nous sommes installés une fois encore au café-librairie Le Liberté. Et pour cette troisième émission, nous allons parler de deux œuvres théâtrales de plus de deux siècles d'écart entre elles. Et nous le verrons au fur et à mesure de nos échanges, elles ont quand même quelques points communs. Alors, la première, c'est Le mariage de Figaro, de Beaumarchais, et Le dernier caravansérail, d'Ariane Mouchkine. Pour cela, je suis en compagnie d'Agnès, professeure de lettres et de théâtre, autrefois, et de Anne, diplômée d'histoire et passionnée du XVIIIe siècle. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous êtes bien installées ?
Tout à fait.
Vous avez pris votre petit café ?
Oui, tout à fait.
Bon. Ouais, bah, écoutez, on va pouvoir commencer. On va commencer
cappuccino.
Avec vous. Cappuccino. Ouais, c'est cappuccino. Pas mal aussi, ça. Ouais. On va pouvoir commencer. Et on va commencer avec vous, Anne, si vous voulez bien. Alors d'abord, pour continuer à vous présenter, pourquoi j'avais envie de vous demander pourquoi cette passion sur le XVIIIe siècle ? Qu'est-ce que...
Pourquoi d'autres sont passionnés d'antiquité ou d'histoire médiévale ou du 19e. Moi,
ah ouais.
C'est le 18e.
Ouais.
Je trouve que c'est un siècle bouillonnant d'idées. C'est la partie pré-révolution qui me passionne. Et depuis toujours. Donc, ma foi, j'ai continué dans le sens de ma passion.
Alors, je crois que vous avez écrit quelques ouvrages.
Oui, tous. Le fil rouge, ce sont les personnages oubliés du 18e siècle. Ceux qui ont eu une importance ou qui ont côtoyé de très près des personnages d'envergure et qui sont totalement oubliés, vraiment oubliés. Le dernier livre que j'ai écrit concerne un baryton qui a été premier baryton à l'Opéra de Paris pendant 43 ans, qui était une idole à l'époque, au même titre que Pavarotti, et qui, 50 ans après sa mort, est totalement oublié. Au point que lorsque j'ai fait des recherches pour mon livre, il a fallu aller aux archives de France parce qu'à l'opéra, on ne connaissait pas.
Il s'appelle
François Lai, dit Laïs.
Et est-ce qu'on peut trouver encore
oui,
votre
oui, on peut le trouver.
En librairie.
Alors en librairie, il faut le commander. Mm-hmm. C'est une petite maison d'édition de Cahors. Vous le commandez et vous l'obtenez sans problème.
Vous pourriez juste rappeler le titre et la maison d'édition ?
Le titre, c'est François Lai, dit Laïs, ou les mésaventures d'un Gascon à l'Opéra de Paris. C'est la Louve édition et c'est à Cahors.
Pour en revenir au mariage de Figaro, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de l'auteur, Beaumarchais ?
Oui, bien sûr. Alors, Beaumarchais ne s'appelle pas Beaumarchais au départ, il s'appelle Pierre Caron. C'est le fils d'un maître horloger et ses parents lui ont donné une très belle éducation. Il est devenu maître de musique et professeur de harpe de Mesdames, fille de Louis XV. Et naturellement, fréquentant la cour et recevant plus que des avanies parce que c'est un petit bourgeois, il décide de s'anoblir. Il achète une charge de secrétaire du roi par le moyen de ce qu'on appelle la savonnette à vilain. Il prend le nom de Beaumarchais, qui est le nom d'une terre qui appartient à sa femme. Alors Beaumarchais, il est surtout connu pour ses pièces de théâtre. Le Barbier de Séville a commencé, mais alors le mariage de Figaro a été vraiment le point d'orgue.
D'ailleurs, c'est celui principalement qu'on connaît le plus et qu'on enseigne également,
tout
j'imagine.
Tout à fait, c'est la comédie du XVIIIe siècle par excellence. Et pourquoi ? Le sujet s'y prête, bien entendu. Il y a un grand seigneur, le comte Almaviva, qui désire la fiancée de son valet, qui s'appelle Suzanne. Le valet, c'est Figaro. Le problème, c'est que Suzanne est la femme de chambre de la comtesse. Et tout ce sujet se prête à un imbroglio parfait. Tous les personnages sont caricaturés. Le seul, bien entendu, qui est honnête dans l'histoire, c'est Figaro, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui n'hésite pas à faire des commentaires agressifs et pertinents, et même impertinents, d'ailleurs. C'est vraiment une caricature de la cour et c'est ce qui fait que, comme c'est vraiment une comédie de caractère et c'est un pamphlet terrible contre la monarchie. Et, enfin, tout le monde s'est rendu compte, bien sûr, de l'importance qu'avait la pièce et c'est devenu, au fil des années, la représentation parfaite des Lumières.
C'est tellement irrévérencieux qu'elle a été censurée, cette
pièce. Oh là là, mon Dieu, six années de suite, Beaumarchais a présenté sa pièce et elle a été rejetée. Il a même été emprisonné pour oser présenter une pièce qui attentait au roi et aux grands de la cour. Et puis finalement, ça devenait une comédie puisque le texte de la pièce circulait sous le manteau, tout le monde se le procurait, il circulait dans les cours européennes. Donc le roi s'est décidé à donner son accord et c'est à ce moment-là qu'enfin, en 1784... apparue cette fameuse pièce et on a baptisé cette journée la folle journée du mariage de Figaro parce que justement, curieusement, les nobles ont été applaudir une pièce qui les mettait plus bas que terre.
Comment on peut expliquer que la cour acceptait malgré tout, enfin les nantis de cette époque-là acceptaient malgré tout ces pamphlets, voilà.
Nous sommes dans une période de contestation intellectuelle. Voltaire a lancé le jeu, mais il y a derrière tous les francs-maçons, les salons littéraires. À l'intérieur de ces salons littéraires qui sont présidés par des grands seigneurs, comme le duc d'Orléans, comme le prince de Conti, on se fait un plaisir de brocarder le roi, de brocarder la reine, de leur imputer tous les ennuis du pays, puisqu'il ne faut pas oublier que depuis la fin de la guerre des Sept Ans en 1763, la France est terriblement endettée, vit avec une dette faramineuse. Le fait d'avoir voulu accompagner la guerre d'indépendance américaine nous a vraiment mis sur la paille. Et la cour veut continuer à recevoir ses pensions, ses cadeaux, vivre sur un grand pied. Et le roi, le pauvre, a la mauvaise idée d'avoir des ministres qui sont tous plus mauvais les uns que les autres, des ministres des finances qui n'arrivent pas à s'en sortir. Le seul qui ait eu l'idée de proposer un impôt basé sur toutes les fortunes, c'est Calonne. Et il a fait 2 mois et il est parti. Et ça ne pouvait pas marcher, quoi. Donc une pièce comme ça est un moyen, un exutoire pour le peuple qui, lui, vit dans une misère noire. Enfin, tous ces gens vivent sur un grand pied. Et la différence entre les deux justifie cette explosion.
Agnès, tu voulais rebondir peut-être ?
Non, c'était tout à l'heure. Quand tu parlais de ces nobles qui acceptaient la critique, je pensais aujourd'hui à Nicolas Sarkozy et les autres qui, sur les bancs de l'Assemblée, rigolent beaucoup en lisant Le Canard enchaîné. Pour moi, c'est... C'est-à-dire, en fait, et même leur marionnette, pour eux, c'est signe de gloire d'avoir sa marionnette.
Tout à fait, hein. Tout à fait.
C'est-à-dire, oui. Il y a aussi une reconnaissance de leur existence.
Je suis tout à fait d'accord.
Oui. Est-ce que la forme, je ne sais pas comment on peut dire ça, est-ce que la forme scénique, c'est-à-dire, c'est une comédie, le mariage
oui.
de Figaro.
Une comédie satirique.
Voilà, c'est une comédie satirique. Est-ce qu'en passer par le rire, par la caricature, adoucirait, ferait plus passer la pilule, quoi, je dirais, auprès de... Est-ce que cette forme-là a eu une influence, finalement, sur l'acceptation de la critique ?
Je pense, parce que si on avait fait un drame sur le sujet, je pense que l'auteur aurait été en prison très vite. On aurait censuré tout de suite. Quoi. Non, le rire permet toujours de faire passer un certain nombre de faits, d'informations, de commentaires, de jugements. Le seul dommage de cette pièce, c'est qu'elle a précipité la Révolution avec tout ce que ça comporte d'excès. Mais au départ, l'idée était de faire bouger tout ça, de secouer l'immobilisme et de supprimer l'impact de la cour sur la politique monarchique. Et ça a quand même eu son effet, sauf que la révolution est en fait un Moloch qui dévore ses personnages. Et en fait, d'un appel à la modification, on est passé à un appel à la destruction. Au départ, ça se passait en France. Rien que cette idée de voir la Bastille citée dans la pièce, le roi dit d'office, il n'en est pas question. Et pour faire passer la pilule, on a placé l'intrigue en Espagne. Mais ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'au travers de la montée de la rage de Figaro, qui se rend compte qu'il ne va pas pouvoir tellement se protéger de l'action du comte Almaviva, qui après tout ne fait que ce qu'il a envie de faire. La montée de la rage de Figaro se manifeste au travers d'une tirade absolument extraordinaire.
Allez-y.
Je vais vous la citer. Figaro est tout seul sur la scène et il vient de découvrir que finalement Suzanne, sa fiancée, se laisserait faire peut-être. Elle n'est pas très sûre, donc il est fou de rage. Et il interpelle le comte en lui disant « Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela vous rend si fier. Qu'avez-vous donc fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, un homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement. » qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. C'est vraiment une interpellation du pouvoir et c'est cette partie de la pièce qui a fait sursauter le censeur.
Il y a beaucoup de monologues, il me semble.
Oui,
de Figaro,
il y a pas simplement. C'est le seul moyen de faire passer. Voilà. Vous savez, un dialogue, c'est léger. Nous sommes dans une comédie. Il faut tout de même que les gens rient au passage de commentaires amusants. Puis c'est une intrigue amoureuse. Il faut aussi faire passer ça. Mais au travers de l'intrigue amoureuse, il y a cette puissance de contestation.
Et pendant toute cette période où cette pièce a été censurée, comment les troupes de comédiens se débrouillaient pour jouer ces pièces? Où est-ce qu'ils jouaient?
Dans des théâtres privés, ils étaient amenés dans des salons et ils faisaient leurs pièces sans costume. Ils lisaient certains actes, pas la totalité de la pièce. Ils lisaient les actes les plus marquants et les plus violents.
Beaumarchais a fait de la prison au bout de combien de temps après la création de cette pièce?
Pendant que c'était en période de censure, il a insisté deux fois, trois fois, la troisième ou la quatrième fois, il avait modifié deux mots ou quelque chose comme ça. Et donc, il a été emprisonné pour insulte au gouvernement. Mmh. Je voudrais dire que cette pièce est une pièce qui pourrait, sans un mot de plus, passer maintenant. Et c'est si vrai que Le Figaro, le journal Le Figaro, a pris pour devise une citation de cette pièce qui dit « Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur ».
Thank you.
passer au dernier caravansérail, pièce d'Ariane Mouchkine, créée en 2003, en deux parties. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste demander, tu as été donc professeur de théâtre,
oui.
Auprès de quel public ?
En fait, j'ai créé avec Nicolas Peskine l'option théâtre, qui est devenue l'enseignement de spécialité du théâtre au lycée de Seigne.
À Blois.
À Blois, voilà, pour des élèves à partir de la seconde qui ont ensuite choisi de faire 5 heures de théâtre par semaine pour présenter le bac dans des conditions assez exceptionnelles. Voilà.
Le dernier caravansérail, c'est donc une pièce en deux parties, Fleuve cruel, origine et destin. La première partie, Fleuve cruel, hein, c'est une succession d'histoires, c'est une série d'histoires.
Oui, alors peut-être ouais. Faut-il un petit peu revenir sur les conditions de création de ce spectacle.
Voilà.
Puis peut-être aussi se poser des questions. Enfin, je pense que tout ce qu'on dira répondra à la question pourquoi aujourd'hui parler du dernier caravansérail.
Juste avant, si tu permets, est-ce que tu peux faire une toute petite, enfin une brève présentation de la cartoucherie.
La cartoucherie de Vincennes est le lieu dans lequel vit la compagnie d'Ariane Mouchkine, le Théâtre du Soleil. Et on peut dire que le Théâtre du Soleil est l'une des aventures peut-être les plus exceptionnelles, les plus excitantes et les plus fortes, plus marquantes du XXe siècle. Et donc c'est un lieu qui n'est pas qu'un théâtre, c'est un lieu d'accueil du public, mais d'accueil aussi des gens sans papier, d'accueil de gens qui sont en difficulté, d'accueil de troupes étrangères. C'est un lieu donc dans la façon même d'accueillir le public, propose autre chose que de montrer des spectacles de théâtre, mais véritablement d'entrer dans une aventure collective passionnante, une forme de caravansérail, c'est-à-dire de lieu, pourrais-je dire, où se retrouvent tous les gens pour partager une aventure commune.
D'ailleurs, à la cartoucherie, il n'y a pas que le Théâtre du Soleil, il me
semble.
Non, bien
sûr, c'est ce que je dis. Il y a la tempête.
Voilà.
Mais lorsque Ariane Mouchkine et sa compagnie, qui est formée d'une soixantaine de personnes issues de tous les continents, lorsqu'ils partent en tournée mondiale, bien, ils laissent aussi ce lieu à d'autres troupes, parfois des troupes coréennes, des troupes de tous les pays du monde qui viennent trouver en ce lieu matière à répéter, à créer, à rencontrer d'autres troupes.
L'auteur, Ariane Mouchkine. Donc,
c'est l'auteur, je ne dirais pas l'auteur, disons, c'est la chef de troupe. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un auteur, ils sont tous des auteurs. C'est-à-dire que déjà, l'origine, le dernier caravansérail, dont le sous-titre, je rappelle, est Odyssée. Hein, je rappelais aussi que le caravansérail, comme je disais tout à l'heure, c'est un lieu mythique où tout l'Orient nomade se retrouvait, que le dernier caravansérail, c'est avant tout, a eu pour point de départ la rencontre avec des réfugiés du centre de Sangat, qui fut le premier centre de réfugiés en Europe avant Calais. Et donc, en fait, ce spectacle a été nourri de récits de ces vies collectées pendant des heures et des centaines d'heures par Ariane Mouchkine et certains de ses acteurs qui traduisaient d'ailleurs leurs propos. Et Hélène Sixous, ensuite, qui est l'auteur attitré du Théâtre du Soleil, a aussi participé à ce projet. Mais disons que c'est vraiment un travail collectif, comme tout travail, toute production du Théâtre du Soleil.
C'est vrai que c'est très... Quand on va sur le site du Théâtre du Soleil, c'est mis en avant, ça,
oui.
Vraiment. Oui, ouais, tout à fait. De quoi ça parle, le dernier caravansérail?
De quoi ça parle? Eh bien, c'est un spectacle en langue originale. J'insiste, qu'est-ce que c'est qu'une langue originale? C'est que dans la mesure où, en fait, elle a collecté les récits de tous ces voyageurs, hein, tels qu'ils s'appellent eux-mêmes, c'est que ce sont des gens qui venaient d'Afghanistan, qui venaient d'Iran, d'Irak, etc., de tous les pays. Et donc, en fait, si c'est un spectacle en langue originale, c'est parce que chacun a parler dans sa propre langue et que c'est un spectacle qui parle de l'exil, de la guerre, de la perte, de l'hospitalité et de la non-hospitalité. Et les principaux protagonistes, ce sont ceux justement qu'on nomme les réfugiés, les clandestins, les migrants, mais qui sont en fait ces êtres avec toute leur histoire, dans toute leur richesse, ces êtres qui errent sur les routes du monde pour trouver peut-être justement un lieu où se retrouver.
et recommencer son existence et sa vie. Donc en fait, ce spectacle, elle l'a construit à partir de tous les voyages qu'elle a pu faire à Sangat, mais aussi en Australie, en Indonésie, où elle a justement reconstitué, grâce à ses récits, le trajet périlleux, parfois mortel, de ces dizaines de réfugiés partis du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est à la recherche d'une terre d'accueil dans ce qui était considéré comme l'Occident mythique, disons, avec effectivement tous ces lieux où ils ont été refoulés, comme en Australie particulièrement. Il y a une scène dans le spectacle qui rend bien compte de ce refus de l'Australie d'accueillir ces immigrants. Et c'était donc en 2003.
Des migrants elle-même.
Oui, tout à fait.
2003, c'est une année particulière dans le monde. Il y a la guerre en Irak. Dans la pièce, entre autres, bien sûr, dans la pièce, on voit principalement surtout des Afghans, des oui. Russes, des Tchétchènes,
des Iraniens.
Oui.
Et en fait, ce qui est important, c'est que c'est surtout des destins individuels qui sont racontés. Ce ne sont pas des tableaux de masse, c'est une épopée, mais c'est surtout l'histoire d'individus avec leur richesse personnelle. Ce sont des espaces intimes qui nous sont racontés, à travers lesquels on parle de destin collectif. Donc on se retrouve par exemple dans un village afghan sous les talibans et leur infâme police des mœurs. Et cette scène qui est absolument déchirante raconte l'histoire d'amour entre deux jeunes gens, un jeune homme et une jeune femme, qui sont obligés de se cacher et qui tentent de lutter de façon bien sûr contre ces talibans qui les tueront bien évidemment. Il y a parfois aussi, on se retrouve dans un sous-bois en compagnie de passeurs véreux. On se retrouve dans une salle d'audience, un tribunal d'immigration. Ou bien on se retrouve derrière une clôture métallique qui garde l'accès de l'Eurostar. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est justement comme c'est une multitude de scènes qui nous sont contées. Et en fait, c'est jamais les acteurs ne foule avec leurs pieds la scène du théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vous rendre compte de l'image de l'errance et du déracinement de ces personnes à travers un système qu'elle a mis en place qui vient aussi du théâtre oriental, qu'on appelle les koken, qui sont les serviteurs de scène. Et en fait, qui fait que chaque scène est montée sur des chariots que poussent les autres acteurs et qui est comme une fragment du monde et la succession de leur apparition finit par peupler justement toute la scène qui devient une forme de planisphère. Mais jamais, jamais, jamais ces personnages ne vont fouler le sol du théâtre, comme si de toute façon ils étaient en errance perpétuelle.
Je crois que c'est au début du spectacle. Il y a une scène assez marquante avec un drap bleu représente la mer. On voit une embarcation.
Oui.
Voilà.
Voilà. Alors, en fait, tout commence. C'est pour ça que ça s'appelle le fleuve cruel. Voilà. Ça commence par cette scène absolument prodigieuse que l'on peut retrouver d'ailleurs et que je conseille de regarder dans le film que Ariane Nouchkine a réalisé d'après ce spectacle. Je dis bien d'après ce spectacle parce que le film est un film à part entière, même s'il reprend certains éléments de distanciation du théâtre. Tout commence donc par le franchissement de ce fleuve cruel qui est mimé par un immense drap que gonfle et soulève un vent furieux. Bien sûr, tout ça c'est manipulé par les acteurs, tandis que suspendu à une corde liant les deux rives de ce fleuve cruel, des mains s'agrippent, des têtes apparaissent, des corps s'efforcent d'avancer mètre par mètre, puis se noient certains. Certains arrivent justement à traverser ce fleuve. Il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des femmes. Certains sont emportés par le courant, alors que quelques-uns donc parviennent sur l'autre bord. Et cette scène dit à elle toute seule ce qu'est le drame de tout être humain qui tente de fuir sa terre, qui n'est une terre natale, mais qui n'est plus une terre de refuge.
Alors bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça résonne quand même dans notre actualité.
Ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est un spectacle politique. Je ne sais pas si tu veux que je continue.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est un théâtre politique ? C'est une vraie question. Ariane Nouchkine s'est toujours affirmée, attirée par l'histoire. D'ailleurs, la plupart de ses spectacles en témoignent. Hein. Mais son théâtre bascule toujours du côté de la légende. Et avec tout ce que cela comporte d'onirique. Donc bien évidemment, en tant que citoyenne, en tant que femme, c'est une femme extrêmement engagée dans son quotidien, mais même si son théâtre se veut totalement ancré dans le présent, elle veut avant tout parler de l'être humain, des âmes, des passions, du pouvoir. Mais son but n'est pas de servir de miroir à la société, plutôt d'offrir une image de ce que certains mouvements de l'histoire présente et passé, de ce que certains destins... Enfin, elle veut montrer l'image des destins individuels. En fait, le spectateur se sente, il reconnaisse la parenté avec l'histoire de son temps. Mais avant toute chose, ce sont des destins humains qu'elle nous raconte. Et c'est plutôt... Ces spectacles sont marqués par une esthétique extrêmement forte, hein, bien sûr, qui viennent du théâtre oriental, du théâtre de Bertolt Brecht aussi. Mais l'esthétique est plus forte que l'engagement social dans ces spectacles. C'est simplement que quand on est spectateur des spectacles d'Ariane Nouchkine, on se sent directement concerné par ce qui se passe sur scène. Et comme elle dit... Bien sûr que le théâtre ne change pas le monde, mais peut-être qu'en sortant des spectacles d'Ariane Nouchkine, on est plus conscient de ce qui se passe dans le monde et peut-être que ça nous rend plus humains.
En assistant à un spectacle du Théâtre du Soleil, c'est ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on est tout de suite impliqué dès l'arrivée. Ariane Nouchkine, en général, c'est elle qui distribue les tickets.
Le fait que le spectateur se sente aussi un citoyen, hein, c'est quand même l'origine du théâtre, rappelle bien évidemment que Ariane Nouchkine a été très imprégnée par la pensée, l'esthétique et l'œuvre de Bertolt Brecht. Et aussi que, effectivement, quand on rentre dans ce lieu, ce sont les acteurs qui nous servent à manger. C'est-à-dire, ils ne sont pas qu'acteurs sur le plateau, ils sont acteurs aussi dans le monde. Et qu'en fait, tous les acteurs sont au même niveau. Il n'y a pas les premiers rôles, les seconds rôles, etc. Il s'agit véritablement d'une communauté. Et que, en plus, les bancs, tout le monde est assis sur les mêmes bancs en fonction de son arrivée, qu'il n'y a pas de prérogative ni de prééminence, c'est-à-dire chacun s'installe sur ses bancs avec des couvertures. Enfin, il y a quelque chose d'un collectif extrêmement chaleureux et très fort. Voilà. Avant toute chose, quand même, on est dans le lyrique, on est dans l'épopée, mais aussi on est dans la poésie et non pas dans un discours qui est complètement matraqué. Voilà. C'est-à-dire que Ariane Nouchkine est une femme du 20e et 21e siècle et qui continue encore à créer. Et je crois que toute l'utopie qui avait concentré chez Bertolt Brecht, elle sait bien que le théâtre ne va pas changer le monde. Et aujourd'hui, justement, elle prépare, elle a commencé d'ailleurs au Théâtre du Soleil une nouvelle pièce qu'elle a voulu être une comédie qui s'appelle Une chambre en Inde. Et cette création collective, puisque toutes les créations du Théâtre du Soleil sont collectives, met en scène en fait une troupe de théâtre exilée en Inde au moment des attentats de Paris. Et justement, elle a décidé de détourner l'horreur de ces événements par le rire pour tenter de l'appréhender. C'est-à-dire qu'en fait, elle se pose la question de comment est-ce que le théâtre peut continuer à raconter le chaos du monde, d'un monde devenu incompréhensible. Et ils ont choisi pour ce faire la comédie, peut-être.
Voilà.
Que ça nous ramène
J'allais dire la même chose. En fait, le désespoir masqué par le rire, mais mis aussi en valeur par le rire.
C'est ça, c'est que effectivement la question qu'elle pose, c'est comment raconter ce chaos sans y prendre part, c'est-à-dire sans rajouter du chaos au chaos, de la tristesse à la tristesse, du chagrin au chagrin, du mal au mal. Et justement, c'est la raison pour laquelle elle a choisi la forme de la comédie. Et peut-être que justement, nous revenons à Beaumarchais ainsi, avant
Exactement.
La Révolution.
Tout à fait.
On peut rappeler, pour finir, donc le film est sorti en 2006. Mmh. Donc voilà, on peut le trouver encore.
Hein, on peut le trouver. En DVD, on peut l'acheter. On peut le trouver à la bibliothèque Abbé Grégoire.
D'accord.
Et je vous engage à le regarder parce qu'il y a des scènes absolument extraordinaires. Et en plus, il y a un bonus dans lequel Ariane Nouchkine explique comment elle est passée du théâtre au cinéma et comment elle a transformé les scènes du théâtre, les scènes que l'on voyait dans le spectacle, en cinéma. Et ça, c'est aussi passionnant.
Et une très belle musique de
Jean-Jacques
Lemaître. Voilà. Merci à toutes les deux.
L'émission continue avec Mot Métis et la chronique d'Alice à l'abordage. À très bientôt.
À l'abordage !
Des essais contre les idées reçues. C'est d'un tout petit livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais de ces petits livres qu'il faudrait toujours avoir sur soi à l'occasion de conversations, disons, polémiques. Vous savez, ces conversations où on vient vous affirmer que les réfugiés, ils vont bientôt nous envahir, qu'ils seraient bien mieux chez eux, que l'Europe et la France en particulier ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde, parce qu'il faudrait peut-être penser un peu à nos pauvres avant de dépenser tous nos sous pour les autres. Et puis que bon, quand même, vous n'avez qu'à pas venir après tout. Bref, je n'insiste pas, avant que Trump ne remporte la présidence des États-Unis et que Fillon surgisse d'on ne sait où, ces arguments, vous les entendiez à longueur de temps à la radio et à la télé certainement. Et probablement pendant les repas de famille avec votre tonton beauf qui vote FN mais qui est pas raciste. Et vous, vous êtes en face à bredouiller, mais tout ce que tu avances est tout à fait faux parce que, oui. Et là, vous avez beau être convaincu, tonton, tata ou votre collègue sont plus forts avec leurs arguments coups humains. Alors désormais, vous aurez votre botte magique que vous empresserez de faire surgir de votre sac. Ça s'appelle « Migrants et réfugiés ». Réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. Ça fait 90 pages et c'est publié aux éditions La Découverte. Les auteurs, ce sont Claire Rodier, juriste au GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, et Catherine Portevin, journaliste à Philosophie Magazine. C'est un petit livre très bien fait, découpé en 23 courts chapitres, comme autant d'interrogations face au phénomène d'afflux de réfugiés en Europe. Ça va de « Migrants réfugiés, quelle est la différence ?» à « L'arrivée des migrants en Europe n'augmente-t-elle pas le terrorisme ?» en passant par « Qu'est-ce qu'un hotspot ?» ou « Est-il vrai que les Syriens sont mieux accueillis que les autres ?» Mais on trouve aussi des questions comme « Quel est le coût de la surveillance des frontières européennes ?» « Quelles mesures a pris l'Union européenne face à la crise migratoire de 2015 ?» ou même « Pourquoi cet afflux soudain aurait-on pu le prévoir ?» Et qu'est-ce qu'on apprend justement ? Eh bien que l'Europe, en organisant la surveillance de ses frontières, notamment maritimes, avec l'agence Frontex, foule au pied la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Car tout pays signataire de la dite convention ne peut refouler une personne qui vient demander protection et qui, donc potentiellement, pourra obtenir son statut de réfugié. Alors quand l'Europe décourage les embarcations d'accoster ou préfère faire un deal économique à 6 milliards d'euros avec la Turquie pour qu'elle retienne les migrants sur son territoire ou qu'elle récupère ceux qui ont réussi à débarquer en Grèce, forcément ça pose question. À propos d'argent d'ailleurs, on apprend que l'Europe, qui n'a officiellement pas les moyens d'accueillir les réfugiés, aurait dépensé 13 milliards d'euros depuis le début des années 2000 à lutter contre l'immigration clandestine, dont 80% à l'expulsion. Le budget de l'agence Frontex, lui, qui surveille les frontières donc, serait passé de 6 millions d'euros en 2004 à 160 millions d'euros en 2015. Si on y ajoute les milliards d'euros offerts à la Turquie, il y a largement de quoi construire quelques abris, sans compter les millions d'euros qui partent officiellement à l'aide au développement, mais qui ont de plus en plus vocation à encourager les États à garder leurs migrants. Enfin, il faut savoir qu'on estime à 15 milliards d'euros l'argent dépensé par les réfugiés pour fuir leur pays. Somme qui pourrait être utilisée dans les pays de destination si on leur accordait des visas, tout simplement, et si elles ne finissaient pas dans les mains des passeurs. Venons-en maintenant au soudain afflux de réfugiés dont serait victime l'Europe depuis 2015. Eh bien, il se trouve que cet afflux aurait pu être anticipé dès le démarrage des printemps arabes en 2011. Mais l'Europe a préféré regarder le Liban et la Turquie accueillir des milliers de réfugiés plutôt que s'y préparer elle-même. On apprend ainsi que le Haut Commissariat aux réfugiés tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs années au sujet de la crise syrienne et des déséquilibres en cours en Turquie et au Liban. Et puis cet afflux, regardé depuis notre énorme nombril, est à relativiser. Car la totalité des réfugiés installés dans les 28 pays de l'Europe représente l'équivalent de ce que le Pakistan accueille à lui tout seul. En 2014, le bloc occidental qui regroupe les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et l'Australie a accueilli 15% des 19,5 millions de réfugiés enregistrés dans le monde. En Afrique subsaharienne, ce taux atteignait 25%. À lui tout seul, le Liban a accueilli 1 million de réfugiés sur une population de 4 millions d'habitants. Alors, en termes de sens de l'accueil, l'Europe peut prendre exemple, je pense. Et puis, vous pourrez aussi dire à tonton, tata et votre collègue préféré que la France, la fameuse patrie des droits de l'homme, elle est désormais connue des migrants pour être l'un des pays européens qui les traite le plus mal. Et quand ils vous rétorqueront que les réfugiés n'ont qu'à rester chez eux, demandez-leur un peu s'ils aimeraient vivre sous les bombes et dans le chaos politique et économique provoqué par les politiques étrangères européennes et américaines au Moyen-Orient et en Afrique. Ah, une dernière chose. Dans « Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents », on apprend qu'un Danois ou un Britannique peut entrer librement dans 164 pays. Un Russe, dans 94 pays. La plupart des ressortissants africains, eux, ne peuvent pénétrer que dans 4 ou 5 pays. Je vous laisse méditer là-dessus.
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite. De noirs bien blanchis, le monde blanc rigole. Les nouveaux, c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que la terre produit pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis. Que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent, les colons sont partis avec dans leurs bagages quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leurs passe-montagnes. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Et puis un jour la crise nous envahit aussi, qu'on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux. Qu'on leur donne un pourboire, faut être libéral. Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal. Ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes. Ils retournent faire les singes dans leur cocotier. Tous nos bons nègres à nous, qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'à rien les amuse. Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Mots métis, la poésie voyageuse. Tigrane est né quelque part sur la plaine d'Ararat, en Arménie. Il est arrivé en France en 2010. Il a un master en linguistique. En plus de sa langue maternelle et du français, il parle également russe et anglais. Le drame du génocide arménien de 1915 à 1921 a été l'épisode le plus tragique d'une histoire agitée qui remonte à plusieurs siècles avant notre ère. l'Arménie fut la première nation à proclamer le christianisme religion d'État dès l'an 327. Un siècle après, l'invention de l'alphabet arménien permet la traduction de la Bible et des livres sacrés en arménien, ce qui implante profondément le christianisme et remplace les langues liturgiques, syriaques et grecques. La langue arménienne appartient à la famille indo-européenne. Elle est dotée d'un alphabet original inventé par Mesrop Machot en l'an 405 de notre ère. La population de langue maternelle arménienne constitue 90% au total. Le reste comprend de petites minorités russes, kurdes et azéries. Pour Tigrane, la lecture est un moyen de découvrir le monde, mais aussi de provoquer, de ressentir de l'émotion. Écoutons-le dans une lecture du poète Charents, dans un éloge de l'Arménie.
Je m'appelle Tigran, je suis arménien. C'est avec plaisir que je vais vous présenter un poète arménien qui s'appelle Yerishe Charents. Né Soromonian, le poète du pays Naheri est considéré comme le père de la littérature de l'Arménie moderne. C'est en 1897 que naît Yerishe Charents. Il est né à Kars, alors l'Arménie occidentale, où il passe son enfance et sa jeunesse. C'est à cette époque qu'il découvre la littérature, la poésie arménienne et russe. François Villon, Dante, Victor Hugo, et des poètes symbolistes. Charents était un poète rebelle, doublé d'un intellectuel, évoquant tour à tour les problèmes de la famine, des guerres et de la pauvreté, de toutes les questions sociales touchant le peuple arménien, et surtout la question nationale. En effet, il compose ses premiers poèmes alors qu'à l'Est, le gouvernement ottoman organise le génocide arménien. Les œuvres de Charents l'ont conduit au panthéon de la littérature arménienne. Et un grand nombre de ses textes et pensées sont devenus des slogans nationaux et des emblèmes de l'unité arménienne, au point d'avoir été reproduit dans cette intention sur les documents officiels. Et maintenant, un bel éloge, vibrant fort, inspiré, un très beau poème des mots du cœur. Ես իմանուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում։ Մեր հին սազի ողբանվագ լացակումած լարն եմ սիրում։ Աննանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու նայրյան աղջիկների հեզաչկում բարն եմ սիրում։ Սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևդամբրան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև, ու հունամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում։ Ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր, չեմ մոռանա աղոտ դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական վերքերը մեր, էլի ես ո՞րբ ու առնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։ Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր արատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա ես իմ մասի սարն եմ սիրում։
Je remercie chaleureusement tous les participantes et participants de cette émission. Je vous retrouve avec plaisir le mois prochain. À très bientôt sur Studio Zef.